Actu SF, les podcasts.
Bonjour à vous, bonjour à tous. Donc, bienvenue pour cette rencontre avec Daniel Matt, qui est notre prix Utopial Jeunesse 2022, avec qui on va passer une heure à échanger. Je vous laisserai un petit peu de temps, hein, parce que je sais qu'il y a des fans parmi les gens présents pour poser vos questions. Je vais commencer très simplement, Daniel. Alors oui, juste pour info quand même, le prix c'est ce livre-là, le troisième exode. En vente dans les meilleures librairies, en particulier la plus grande librairie de science-fiction d'Europe qui est juste à côté. Daniel, tu nous viens de Suisse.
C'est ça.
Est-ce que ton environnement t'a inspiré pour écrire ce livre ?
C'est une question qu'on m'a déjà posée par le passé, de savoir si l'aspect suisse, neutralité politique, en théorie, etc., m'a influencé. Honnêtement, c'est difficile à dire. Après, environnement, nature, on va dire, naturel, peut-être un peu. J'habite un peu au milieu des forêts, dans un petit coin un peu perdu, qui ressemble à un des passages du livre, pour ceux qui l'auraient lu, mais... Quand tu parles d'environnement, tu t'adresses plutôt... Je vais préciser peut-être.
Oui, je vais préciser. Dans ton livre, au tout début, on a une ville, enfin, une ville détruite, plus ou moins, on va en reparler.
Mais non, ça, c'est pas trop la Suisse, non?
Oui, mais je pensais, il y a un aéroport, il y a un grand aéroport, qui a quelques aéroports en Suisse. Est-ce que tu t'es inspiré de cet environnement-là un peu montagneux, où il y a du haut, du bas, ou...
Alors, c'est vrai qu'il y a cette idée de la falaise, hein, avec cette ville, des ruines de cette ville posées au-dessus d'une falaise comme ça. Ça, c'est un peu une des villes où j'ai passé mon enfance, qui est Fribourg, qui a comme ça des sortes de grandes falaises avec des... La ville, en fait, suspendue. On peut être dans la basse ville en bas, où on voit vraiment ces falaises. Il y a peut-être une inspiration... C'était pas forcément conscient quand je l'ai fait, mais ouais, sans doute, quand... Si je suis honnête avec moi-même, il y avait sans doute une influence un peu inconsciente des souvenirs de cette falaise comme ça plantée devant. Ouais.
Alors, tu écris un livre avec donc on va un peu raconter, mais pas trop, parce qu'évidemment l'idée c'est de vous donner envie de le lire. Hein. Et vraiment, enfin, jeune ou adulte. Alors c'est un young adulte d'ailleurs.
Ouais.
Alors ce qui est assez amusant, j'ai trouvé, c'est que donc chez ton éditeur Scrineo, il est indiqué young adulte pour les plus de 14, je crois. Et puis quand on se balade un peu dans les différents sites, on voit que parfois il est pour les plus de 12, parfois il est pour les plus de 16. Qu'est-ce que tu en penses de ça ?
Ouais, alors ça, personnellement, je vais dire, c'est pas quelque chose auquel je pense vraiment quand j'écris. Ça, c'est plus après les éditeurs qui s'occupent de classer tout ça. On aura peut-être l'occasion d'en reparler quand on parlera du genre du livre après. Je sais pas si tu as l'occasion d'en parler, mais...
Tu as carte blanche pour parler de ce que tu veux avec moi.
Non, mais c'est vrai que les catégories d'âge et le genre du livre qui est classé comme science-fiction, pour moi, quand j'écris, ce n'est pas des choses qui me parlent énormément. Enfin, ce n'est pas quelque chose que j'ai en tête en me disant je vais écrire de la SF ou je vais écrire du young adult. Je me doute, parce que je lis beaucoup de livres young adult, que ça va tomber dans cette catégorie, parce que j'écris avec des personnages qui sont des adolescents, et puis que bah, forcément, c'est des thématiques qui, justement, après, font tomber ça dans le milieu éditorial, dans des catégories jeunes adultes. Mais après, pour moi, ça n'influence pas mon écriture, si tu veux. Je ne me dis pas, bah, j'écris pour des jeunes de cet âge-là, il faut que ça parle de ce genre de choses-là, de cette manière-là. Je raconte l'histoire que les personnages me donnent envie de raconter, que l'univers me donne envie de raconter. Et après, j'espère que les gens... Qui mettent les mains dessus, quel que soit leur âge, vont l'apprécier. Alors, bah, bon, visiblement, ça n'a pas trop mal marché cette fois. Mais.
Oui, parce que c'est ton deuxième roman.
C'est mon deuxième roman, ouais.
Le premier est paru aussi chez Scrineo.
Aussi chez Scrineo.
Vas-y, tu peux citer son titre. Hein,
Au-delà de la lumière, voilà. Ouais, qui se passe en réalité dans le même univers créatif, mais quelques siècles avant celui-ci. Donc les liens sont assez diffus pour les lecteurs un peu plus attentifs. On dirait qu'il y a quelques petites choses à remarquer, des petits clins d'œil ou des sortes de continuités comme ça. Bon, ça, c'est plus pour moi, pour m'amuser. Puis pour ne pas trop mettre la pression sur un éditeur en disant « Ouais, ça se passe dans le même univers. » Enfin, pas le vendre comme une suite, en fait, parce que ce n'est pas une suite en réalité, mais on peut les lire indépendamment les uns des autres.
Je vous le confirme, hein, moi, j'ai lu le troisième Exode sans avoir lu le premier, et il n'y a aucun souci. Vous pouvez les lire de façon indépendante.
Indépendante dans n'importe quel ordre. Mais voilà, mais c'est vrai que pour les lecteurs un peu plus attentifs, on remarque des petits parallèles ou des clins d'œil ou des choses qui se retrouvent, mais ça va dans les deux sens, donc c'est assez... C'est fait pour être lu dans n'importe quel ordre. Quoi. Mais de retour à la question que tu me posais avant, si je peux me permettre. J'étais enseignant avant. Et du coup, je travaillais avec des élèves de 10-12 ans. Et je pense qu'à ce titre-là, il y a peut-être cet attrait pour ce genre de littérature. Et tu parlais des âges recommandés dans les librairies. J'ai des élèves de l'époque... qui, au moment de la sortie du premier roman, je venais d'arrêter d'enseigner. Et donc, j'avais des élèves de 12 ans qui s'étaient un peu précipités pour acheter le livre, forcément, parce que c'était leur prof, maître, hein. Forcément. Et certains qui, tout de suite, deux semaines après, me disaient « Oh, j'ai lu, c'était génial, blablabla. » Et d'autres qui me disaient qui m'ont recontacté quelques années après, donc l'année passée, en fait, en me disant, j'avais essayé le livre à la sortie, mais c'était un peu compliqué, mais je l'ai relu et c'était vachement bien. Enfin, je l'ai lu juste maintenant et c'était... Donc, voilà, les catégories d'âge, en fait, c'est très arbitraire, mais au fond, ça dépend du lecteur, enfin...
De quand il est prêt.
Voilà. Donc, au fond, voilà, c'est pour ça que moi, je m'en soucie pas exceptionnellement. Ça reste des outils pour les libraires et les éditeurs, plus que pour moi, en tout cas, quand j'écris.
Ouais. Et tu écris pour qui ? Quand tu écris ce type de... Enfin, quand tu écris, essentiellement, tu écris pour ton toi enfant, tu écris pour quelqu'un que tu connais. Comment ça se passe ?
J'aime bien m'imaginer que j'écris pour un lecteur idéal, ou une lectrice idéale, je mets ça au neutre. On n'a pas de neutre en français, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, un lecteur idéal, et je crois qu'il me ressemble un peu à moi quand j'étais ado. J'ai eu une sorte de profonde nostalgie de l'adolescence. Je ne sais pas d'où ça me vient exactement, mais les choses que j'ai lues, que j'ai vécues, les jeux vidéo auxquels j'ai pu jouer, les films que j'ai pu voir, ou les séries, etc., de l'adolescence sont pour moi quelque chose qui m'ont vraiment énormément marqué, qu'encore aujourd'hui, je recherche toujours à retrouver un peu ces mêmes émotions quand je consomme moi-même du média ou des choses. Et je crois que j'écris un peu pour cette idée de ce lecteur ou lectrice de cet âge-là qui me ressemble peut-être un peu. Hein, donc, est-ce que ça veut dire que j'écris pour moi ? Je ne sais pas. Peut-être. Ouais. Le moi de quand j'avais 16 ans, c'est-à-dire on est dans la fin des années 90.
En tout cas, pour les plus vieux parmi nous, il y a... Ton livre est truffé de clins d'œil, effectivement, à des séries, des films. Et c'est délibéré, du coup, ou est-ce que c'est juste que c'est ta culture, c'est en toi, et du coup, forcément, ça ressort ?
Je pense que ça vient un peu naturellement. Après, j'essaie d'éviter le phénomène cette sorte d'amalgame de références culturelles. Donc, je nomme rien, en fait, dans le livre. Il n'y a pas... Un très bon exemple, c'est qu'il y a un album de musique à un moment qui est trouvé par le personnage principal dans les ruines. Je nomme absolument pas ce que c'est, mais c'est une couverture très précise que je décris vaguement dans le roman et qui parle d'un album précis que je me souviens d'avoir beaucoup écouté quand j'avais cet âge-là. Mais je le nomme pas parce que c'est, pour moi, c'est pas le but de dater trop les choses, etc. Mais ça me fait rire d'imaginer que peut-être un lecteur un jour va voir ça, puis il va se dire, tiens, je me demande si c'est pas cet album-là, et puis voilà, c'est un jeu avec moi-même et potentiellement un lecteur qui serait curieux. Oui. Ouais.
Parce qu'on n'a pas encore expliqué, hein, mais pour ceux qui découvrent, en fait, on va suivre deux adolescents, Ezra et Céleste, qui vivent dans un monde où essentiellement la quasi-totalité de l'humanité a disparu et est partie. Et si on parle de troisième exode, c'est que le premier départ, on peut le dire sans spoiler, hein, on a toute une population qui a disparu. Et puis on a les oubliés, comme ils s'appellent eux-mêmes au départ, qui sont sur notre planète, dans un environnement un peu fin de vie. Hein.
Alors le point peut-être assez central, c'est que le grand exode, donc le premier départ qui a eu lieu, a été mené par un réseau d'intelligence artificielle surdéveloppé.
Atmos,
qui, pour organiser le départ, a dû exploiter une grande partie des ressources de la planète, ce qui fait que forcément, ceux qui sont restés derrière, ils ont une planète un peu... ce qu'il en reste, quoi. Ils essayent de se reconstituer en communauté, en ville, en... Voilà, mais... Bah, ils font avec ce qu'ils ont. Alors, bon, ils sont beaucoup moins nombreux, donc ça aide un petit peu à se partager ce qui reste, mais voilà, on se rend compte qu'il y a une grande partie des ressources de la planète qui ont été exploitées pour ce grand départ. Et ce qui est intéressant, à mon avis, enfin, ce qui m'a, moi, en tout cas, stimulé quand j'écrivais ça, c'est que les personnages dont parle le roman n'ont pas fait le choix de rester, puisque ça se passe... Le roman commence une centaine d'années après le grand départ, donc... Ceux qui sont là, ce sont les descendants de ces gens qui ont pris une décision pour eux, dont ils doivent maintenant subir les conséquences. Donc il y a cette notion un petit peu de... On hérite de la planète que nos ancêtres nous ont laissée. Donc ce n'était pas une volonté. Je me rends compte en le disant, depuis que j'en parle, depuis qu'il est sorti, je me rends compte qu'il y a une idée un petit peu écologique comme ça de... Ben, nos descendants hériteront de la planète qu'on leur laisse. Ce n'était pas forcément mon intention quand je l'ai écrit. Je ne l'ai pas vu comme ça. Mais j'imagine que ça fait partie des choses qui m'inquiète inconsciemment, en tout cas, on peut le dire.
Ouais. Avec quand même une bascule qui se produit au cours du livre sur la perception qu'ont les personnages de leur place dans ce monde. Parce qu'au départ, très clairement, ils sont dans une position où ils subissent complètement l'environnement qui les entoure. Et ton idée au cours de ce livre, c'est de les faire évoluer avec une profonde réflexion sur leur place dans ce monde, comme ont la plupart des ados d'ailleurs au cours de leur passage à l'âge adulte.
C'est tout à fait ça. L'idée est que ce serait, enfin, pas facile, mais ce serait possible de simplement subir la situation telle qu'elle est présentée. Ou alors de se dire, on n'a pas le choix de revenir en arrière, on ne peut pas changer les décisions qui ont été faites. Alors qu'est-ce que nous, on peut faire avec cette situation pour essayer de ne pas que survivre, justement, peut-être, de se libérer de cette condition-là. Alors je pense que la liberté, c'est un des thèmes principaux du roman, j'ai l'impression. Pour le personnage de Céleste, de se libérer de cette sorte de prison dont elle pense être prisonnière, ouais. Par ses parents, par le fait qu'elle soit surcontrôlée, et évidemment ce que ça implique pour les choses qu'on découvre après sur le personnage plus tard, mais pour Ezra, qui est quand même le personnage le plus explicite, j'ai envie de dire, dans l'histoire, puisqu'on a son monologue intérieur, etc., pour lui, de se libérer de, je pense, sa propre vision de lui-même. Pour moi, c'est l'idée, en tout cas, c'est qu'il se voit d'une certaine manière. Il pense qu'il a un rôle précis. Il n'est pas tout à fait conscient de ce qu'il apporte au monde autour de lui. Et il ne se rend pas compte, en fait, du pouvoir qu'il peut avoir à sa petite échelle sur ce qui l'entoure. Je crois que pour lui, se libérer, c'est d'accepter qu'il a un rôle à jouer, qu'il n'est pas simplement là pour subir le monde autour de lui, que ce soit sous la forme d'autres personnages qui ne l'apprécient pas trop ou sous la forme de lui-même, de sa propre vision de...
Tu t'amuses aussi, donc on a ces deux personnages qui vont essentiellement, on peut le dire sans spoiler, hein, qui vont découvrir une tablette qui est une intelligence artificielle qui se réveille et qui commence à dialoguer avec eux. Elle est très intéressante, cette intelligence artificielle qui essentiellement a un questionnement très rapide sur pourquoi je suis là, en fait. Et donc qui propose deux hypothèses, parce qu'il lui manque ces données, vous savez, il me manque les informations pour répondre à la question. On est un peu avec ce jeu-là, avec cette IA. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de ton choix des deux hypothèses? Pourquoi tu as fait ces... Donc, on peut les donner, ces hypothèses.
Ouais, tout à fait.
Donc, pourquoi je suis là, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi ça va amener dans le récit des échanges assez truculents entre les différents personnages. première solution, je suis là.
Tu l'as sans doute lu plus récemment que moi.
Je l'ai lu
ça fait plus d'une année qu'il est sorti, j'ai un doute tout à coup sur la deuxième page.
Je suis là pour servir l'humanité. Puis en fait, non, j'ai du mal avec l'autorité, donc je ne suis pas là pour servir l'humanité, je suis là pour guider, voilà. Pour guider l'autorité de
Merci,
l'humanité.
Ouais. Tout à fait, ouais. C'est vrai que l'intelligence artificielle se réveille et elle n'a plus la connexion avec le réseau qui existait au moment avant le grand départ. Donc, il lui manque en fait toute la base de données, les informations de sa directive, de ce qu'elle est supposée faire. Et donc, comme tu le dis, ouais, c'est est-ce que je suis supposé servir ou est-ce que je suis supposé diriger, quoi ? Parce qu'il y a un personnage qui lui fait remarquer. Alors, c'est intéressant avec cette intelligence artificielle parce qu'elle a une sorte d'évolution ultra rapide de sa manière de penser et de réfléchir. Au début, c'est très basique. On a presque l'impression de faire face à un enfant qui pose des questions très simplement. Et petit à petit, au fur et à mesure des informations qu'elle acquiert au contact des êtres humains, elle se développe comme ça elle-même. Et un des personnages lui fait remarquer, mais en fait, t'es pas très doué pour suivre les instructions qu'on te donne. Et du coup, elle part du principe, c'est peut-être parce que je suis pas là pour faire ce qu'on me demande et pour essayer peut-être de guider l'humanité vers... sur la trace de ceux qui sont partis avant ou quelque chose de ce genre-là. Ouais.
Et comme on a des ados qui ont une certaine... Enfin, on est en 2200, quelque chose comme ça. Hein,
un peu plus tard.
Et comme essentiellement, on a tous quelques références cinématographiques que ces adolescents-là ont également, lorsqu'ils entendent cette IA leur dire « Je suis là pour guider l'humanité », d'un seul coup, il y a... On va voir, il va falloir réfléchir à ça. Et il y a ce côté-là, et en fait, tout le long, elle va avoir cette volonté un peu de, d'échanger avec une volonté de former un peu des ados qui essentiellement l'envoient gentiment de temps en temps balader, mais en même temps, en faisant, c'est très très intéressant cette relation, parce qu'essentiellement, il n'y a pas de parents.
Non.
Ils sont deux. Ils vont se retrouver très vite seuls. À avancer en se débrouillant par eux-mêmes, sachant que Ezra, l'un des deux personnages, est un grand débrouillard parce qu'il a survécu seul, justement, dans un monde qui ne voulait pas forcément de lui. Mais n'empêche que deux ados seuls, on sent bien que ça tient pas vraiment. Et du coup, cette IA est là comme élément un peu à la fois cadrant et décadrant, j'ai envie de dire, même si c'est pas très français.
Non, mais l'intérêt, je crois, que c'est que les deux personnages ont une relation très différente avec cette IA. Pour Ezra, c'est un petit peu cette sorte de figure peut-être parentale qui manquait. Et pour Céleste, c'est plus une sorte de compagne ou compagnon qui ne représente pas une menace. Pour Céleste qui a besoin de sentir qu'elle est en sécurité par rapport à son état psychologique, son état, son vécu, etc., lui font qu'elle a besoin de cette sorte de distance face aux gens, ce qui du coup crée pas mal de problèmes avec Ezra d'ailleurs, qui sont quand même supposés voyager ensemble et qui n'ont pas beaucoup d'espace pour vivre. Mais ouais, c'est intéressant justement que cette IA représente quelque chose d'assez, en apparence assez inoffensif, parce que forcément c'est une tablette, on peut la poser et puis
inoffensif mais puissante, hein.
Ouais. Puissante avec beaucoup de peut-être le pouvoir des mots est assez peut être assez imposant quand on voit les choses qu'elle est capable de réfléchir et des cheminements intellectuels qu'elle est capable de faire, mais pour moi c'est un personnage intéressant, ouais. Et je pense que ça servait pas mal l'idée de, parce que bon, on en a pas parlé, mais un des aspects un peu uniques de ce livre au niveau de la structure, c'est qu'un chapitre sur deux est uniquement en dialogue. C'est-à-dire qu'il y a deux personnages point de vue, il y a Ezra et Céleste, mais Céleste, on n'a jamais son monologue intérieur. Elle apparaît, tous les chapitres qui sont autour de Céleste comme personnage principal sont uniquement des retranscriptions d'enregistrements audio. C'est l'idée un peu du cadre en fait, du livre. Et du coup, on a uniquement du dialogue, ce qui pour moi a été intéressant parce que ça enlève tout l'aspect de description, donc ça... y a des scènes qui peuvent, où il peut y avoir de l'action, des choses qui se passent, mais on a simplement voilà, des retranscriptions de sons, des choses. Enfin, c'est très. C'était une manière intéressante d'aborder quelque chose de visuel, mais de manière uniquement auditive, en fait. Et l'aspect du dialogue ben, se prêtait bien avec cette IA qui. Ben, c'est une IA, c'est une tablette, elle ne va pas bouger, elle ne va pas faire des choses forcément très intéressantes au niveau visuel. Donc, c'était intéressant d'avoir ces chapitres uniquement en dialogue où ça pouvait se passer. Sans que ce personnage devienne un frein à la description ou à l'aspect un peu visuel du truc. Donc, pour moi, c'est une petite pirouette comme ça dont l'idée m'est venue très tôt, en fait, avant même que l'IA devienne un personnage. J'avais déjà envie d'écrire des chapitres comme ça qui étaient uniquement en dialogue. J'avais lu, je ne sais pas si vous avez lu peut-être Le Sommeil des Géants de Sylvain Neuvel.
Moi, je n'ai pas lu. Ouais.
Mais voilà, j'avais lu ça, c'est uniquement du dialogue, tout le roman. Et moi, je me disais, j'aimerais bien essayer ça un jour. Et puis, bah là, ça s'est présenté que ça fonctionnait bien avec tous les éléments du livre. Et même dans l'aspect thématique, je me permets un peu de partir, parce que ça, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment, cette structure. Même dans l'aspect thématique, ce qui était intéressant, c'était que ce personnage de Céleste, qui reste mystérieux, qui a ce besoin de liberté, envie de se détacher, même en tant que lecteur, on n'a pas complètement accès à elle, du fait qu'on n'a pas son monologue intérieur, on n'a pas accès à ses pensées, on n'a vraiment que ce qu'elle veut nous montrer en surface, à travers ce qu'elle dit. Donc il y a toujours un biais qui est intéressant pour le lecteur, est-ce qu'elle dit la vérité, puisque finalement c'est la seule chose qu'on a. Alors que si on avait son monologue intérieur, on pourrait savoir ses manigances, ses idées, peut-être les entourloupes qu'elle essaye de mener ou des choses comme ça. Donc.
En même temps, on a ces échanges avec l'IA, souvent. Mm-hmm. Et ces échanges nous donnent quand même une bonne idée de sa façon d'être et de sa façon d'évoluer. Moi, j'ai eu cette impression, en tout cas, en lisant ton livre.
Quand elle interagit avec Terra, qui est le nom de l'IA...
Dont vous saurez ce que signifie Terra à la fin du livre, et c'est... Ça vaut le coup. Mais je ne dirai pas plus que ça. Lisez le livre, vous saurez ce que signifie Terra.
Ouais, j'étais content de cette pirouette. Surtout que Terra, ça a un sens, enfin, oui. Au niveau simplement de l'étymologie du mot, où on peut se dire, ah oui, c'est assez logique. Puis en fait, bref, on ne va pas.
Mais il faut le lire.
C'était marrant. C'était marrant.
Et donc, dans ces
échanges. Mais du coup, ouais, dans les échanges, on peut en tout cas imaginer que lorsqu'elle communique avec Terra, elle est peut-être plus honnête que quand elle communique avec des autres personnages humains, on va dire. Parce qu'elle a justement c'est ce sentiment d'être en sécurité. Ce qui est peut-être quelque chose dont elle avait besoin. Et Terra se présente là comme étant... finalement, la personne parfaite pour Céleste, pour faire ce bout de chemin de se livrer à quelqu'un sans avoir peur d'être manipulée, blessée. Allons savoir.
Ouais. Ouais. Oui, je vais revenir sur le tout début de ton livre, parce qu'effectivement, donc on a cette structure où on a des comptes rendus, on a des enregistrements, et puis on a l'action qui se passe sous forme de dialogue et de rencontre. Mais dans ces éléments qu'on a détachés un peu de l'action directe, on a une longue séquence en fait où les personnages sont à l'école. Et moi, ce qui m'a intriguée dans ce monde, c'est qu'on a un monde essentiellement où, donc imaginez, hein, des gens, tout le monde est parti quasiment en prenant la plupart des ressources pour partir. On a ceux qui sont restés, mais par choix, on ne sait pas trop comment, mais ils sont restés, mais en tout cas, ceux-là sont morts. Leurs descendants se retrouvent dans ce monde un peu vidé de ses ressources. Et on ne sait pas s'il reste plein de choses à explorer. Hein, c'est un univers... On a envie d'en savoir plus. On ne sait pas s'il y a des scientifiques quelque part. On ne sait pas s'il y a encore des chercheurs. On ne sait pas comment vivent complètement les gens. On sait qu'il y a des gens qui vivent de la récupération. C'est Ezra, typiquement. On sait qu'il y a des gens qui ont tout et qui sont confortablement installés en profitant des ressources récupérées, typiquement par ceux qui fouillent ce qui reste. C'est la famille de Céleste. Et puis on a une école. Alors, tu me disais que tu es un ancien enseignant. On a une école avec des enseignants. Donc, on voit un cours de philosophie. Et là, je me suis dit, mais voyons voir. On est dans un environnement où, essentiellement, on est en mode, pas complètement survie, mais en tout cas en mode plutôt passif. Hein, et on a une école avec des cours de philosophie. Et là, je me suis dit, mais ton idée derrière ça, qu'est-ce qui fait que dans ton univers, on peut avoir une école avec des cours de philosophie dans un environnement aussi, aussi malmené, j'ai envie de dire.
L'idée, c'est que, pour moi en tout cas, c'est qu'il y a une volonté de se raccrocher à un passé qui s'est échappé, en gros. On essaie de reformer ses communautés, on essaie de reformer ses petites villes, etc. Et on a cette image du monde d'avant qui était, pour beaucoup, semblait être une sorte de monde idéal, finalement. On avait des ressources, tout le monde vivait, il y avait de la communication, il y avait des choses qui se passaient. Et je crois qu'il y a une difficulté pour les oubliés en général à lâcher prise sur le monde a changé, il faut qu'on fasse autre chose, enfin qu'on peut pas survivre comme ça, on peut pas subsister de cette manière-là. Donc il y a, pour moi, ça allait dans le thème de, qui est relativement quand même présent, de ça va être le moment de passer à autre chose, quoi. Ça va être le moment de d'oublier un petit peu les choses du passé qui manifestement ont pas trop fonctionné. Vu qu'on en est arrivé au point où la seule solution déterminée par une intelligence bien supérieure à la nôtre, c'était de partir. Manifestement, on n'a pas su faire, mais ouais, j'ai l'impression que c'est un peu peut-être un problème de notre espèce en général, c'est qu'on a de la peine à retenir toujours les leçons du passé. Je pense que malheureusement, les actualités récentes nous montrent que c'est souvent le cas. On n'apprend pas trop, on a tendance à répéter des schémas. Tu parlais de ceux qui avaient tout et de ceux qui n'avaient rien. Bon, le parallèle est assez facile à faire, quoi. C'est pas non plus très. C'est pas du haut niveau de réflexion, quoi. C'est juste une reproduction de ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui. Ouais. Parce que dès le moment où des humains sont impliqués, il va y avoir des inégalités qui vont se créer parce que. Voilà, c'est difficile de lâcher un privilège qu'on peut avoir et puis de passer à autre chose. Mais après, pour le cours de philosophie, c'était une manière intéressante pour moi d'explorer un peu certaines questions amenées par cet univers sans faire de l'exposition passive. C'était intéressant d'avoir un dialogue avec, puis de voir tout de suite la personnalité de Céleste qui, elle, se met vraiment en opposition avec le professeur qui essaye de réfléchir à la condition de l'homme dans ce monde-là. Je pense que, enfin, ça me paraît assez naturel d'imaginer que dans un monde comme ça, on ait envie de réfléchir à la condition de l'espèce humaine. Si on le faisait il y a des milliers d'années en arrière, pourquoi pas dans un monde comme ça où...
Moi, j'ai personnellement beaucoup aimé ce passage qui permet effectivement une réflexion sur ce monde, mais qui permet aussi au lecteur indirectement, puisque d'avoir une proposition de réflexion sur un monde qui n'est évidemment pas le leur, mais où on sent qu'il y a quand même beaucoup d'inquiétudes actuellement sur où on va, comment où on va et qu'est-ce qu'on peut faire. Et cette réflexion-là menée, alors il n'y a pas de réponse, hein, c'est un cours de philo, hein, par principe, les philosophes posent les problèmes, mais n'y répondent pas.
Je ne sais pas si on a tous eu les mêmes cours de philo, mais c'est vrai que... Les miens, en tout cas, en Suisse...
Ils répondaient.
Non, les réponses, c'était pas trop... Non, justement pas.
Non, oui, justement, ouais. C'est ce que...
Mais je sais qu'en France, les cours de philo sont vachement plus importants que chez nous, c'est au niveau de...
Mais l'idée, justement, c'est de faire... Enfin...
C'est genre la branche... Je crois que c'est une des matières principales pour les lycéens de L, je crois, non
c'est Alors, ça n'existe plus.
Ah, ça n'existe plus, pardon.
On a tout changé. Non, on a tout changé chez nous. Mais la philosophie reste un élément très
important. Alors que chez nous, c'est deux heures, c'était quoi, deux leçons par semaine, grand maximum. En filière littéraire de l'époque, donc.
Alors que là, nous, on parle d'heures, c'est deux heures, je crois. Est-ce qu'il y a des lycéens parmi nous? C'est deux heures par semaine pour tout le monde, à minima.
Ouais, ok.
Et ensuite, les gens qui font une option littérature, humanité, okay, ouais, vont avoir un volume plus.
Mais c'est vrai que nous, ça faisait pas partie du bac, ni rien de tout ça, donc. Ouais, voilà, après, bon, l'idée, c'était pas non plus de parler des vrais cours de philo, mais je pense que pour le coup, l'absence de réponse fait partie, en même temps, ça fait partie du truc, quoi.
Moi, ce qui m'amusait, c'est que si tu veux, il y a ce cours de philo qui amène à une réflexion sur où on est, où on va, et une réflexion sur les noms. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'on s'appelle les oubliés? Et est-ce que le terme est approprié? Et ça, ce jeu, enfin, cette réflexion sur les mots, est-ce que les mots donnent comme représentation du monde, est un élément extrêmement important qu'on oublie souvent d'ailleurs aujourd'hui et qui devrait être un petit peu plus enseigné. Je me disais que ça, bon, bah, voilà, c'était très chouette. Alors, t'es pas le seul à avoir fait ça.
Non, non.
Et moi, ça m'a fait penser à Starship Trooper. Je me trompe pas dans le titre, de Robert Heinlein, où essentiellement on a au tout début du livre un gamin un peu idiot, faut dire ce qu'il y a, enfin qui nous apparaît vraiment idiot et qui se prend un cours de philo qui l'amène à réfléchir à ce qu'il est et où il veut aller. Et je pense que ça, enfin ce lancement sur cette question-là, c'est une question très prégnante pour tout le monde aujourd'hui et les ados en particulier. Et je sais pas si tu l'as pensé en comme ça, enfin, pour tes lecteurs, ou si c'est juste parce que ça faisait sens dans ton livre. En tout cas, pour moi, j'ai trouvé ça très, très efficace en termes de lancement d'une réflexion chez tes lecteurs, quel que soit leur âge.
Ben, ouais, non, mais je crois que tu as dit ce qu'il y avait à dire. C'est vrai que la question du nom des oubliés, qui est un nom... Enfin, ils se nomment eux-mêmes comme ça. C'est eux-mêmes qui décident de dire qu'ils sont les oubliés. Et y a une forme d'abandon à dire ça. C'est que il se place automatiquement en personnage secondaire.
Et en victime.
En victime. C'est-à-dire qu'on a été oublié par ceux qui sont partis, on n'est pas important, etc. Enfin, y a, pour moi, c'est vrai que bah, on rejoint ce qu'on disait au départ sur le thème du livre, de ne ouais, de pas simplement subir la condition dans laquelle sont les personnages, mais de réussir à s'élever au-delà de ça et de ne plus donner le enfin, de ne plus se contenter d'être oublié, justement. Ouais. Mais, non, après, c'est marrant que tu es la première personne qui me parle vraiment de cette scène-là comme quelque chose qui a marqué comme ça. Je t'avoue que pour moi, le point de départ d'avoir cette scène, c'était parce que je n'avais pas envie de faire de l'exposition passive sans qu'il se passe rien, tu vois. Parce que je déteste ça quand je lis un livre et qu'on me raconte comment est l'univers, etc., tu vois, le genre de prologue un peu à la rallonge, là, c'est pas mon truc, quoi. Et du coup, je me disais, bah, c'est une manière intéressante de parler de l'univers, avec un peu de dynamisme dans le dialogue. Et puis, alors après, toutes les réflexions bon, qui sont venues pour remplir le chapitre, ça s'est fait assez naturellement.
Ouais. Alors, y a un personnage dont on n'a pas du tout parlé pour le moment. Enfin, y en a dont on ne va pas vous parler, parce que sinon, voilà, ça risque de fausser votre lecture. Mais on a un personnage qui apparaît très très vite, qui est quelqu'un qui, donc, quand vous arrivez dans le livre, quasiment très rapidement, vous arrivez sur un personnage qui interroge Ezra, et dont jusqu'au bout on ne saura pas grand-chose. Ça fait un peu, vous savez, l'espion aux lunettes noires, dont on ne sait pas trop ce qu'il est. Et ce personnage qui a un rôle essentiel, qu'on découvre au fur et à mesure de l'histoire, rajoute une couche supplémentaire qui reste très mystérieuse dans ton roman, puisqu'essentiellement on découvre au fur et à mesure d'où il vient, mais on ne sait pas entre le moment où on sait d'où il vient et le moment où on est au présent dans ton livre ce qu'il a fait, et on ne sait pas ce qu'il va faire ensuite. Est-ce que c'est délibéré avec l'idée de focaliser ton prochain roman, allez, je tente, sur cet aspect-là de ce monde? Est-ce que c'est Enfin, est-ce qu'il s'est construit au fur et à mesure, ou est-ce que dès le départ, tu avais une idée très précise de ce qu'il allait être, ce personnage? Comment il t'est venu, cet interrogateur mystérieux dont on sent qu'il est plus ou moins menaçant, mais on ne sait pas trop comment, et puis à un moment où?
Alors pour le coup, je réfléchis là maintenant et je ne me rappelle pas exactement de la création de ce personnage. Je ne me souviens pas forcément de ce qu'il y a... amené à sa première création. J'ai commencé à écrire le livre en 2016, hein, donc tu vois.
Il t'a fallu combien de temps pour l'écrire alors?
C'est difficile à dire parce qu'il y a eu pas mal de moments de. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai commencé à écrire l'idée de ce roman-là et le début de sa rédaction précède ne serait-ce que l'idée de Au-delà de la lumière que j'ai publié en premier finalement. C'est-à-dire qu'Au-delà de la lumière, j'ai eu l'idée en 2017. Je l'ai écrit entre 2017 et 2018 et il est sorti en 2019. Et celui-là, j'avais commencé à le travailler en 2016, je l'avais abandonné au bout d'un certain temps parce que... Et d'ailleurs, de tout ce que j'avais écrit en 2016, quasi rien n'est resté, quoi. C'était vraiment une sorte de point de départ. Et ensuite, je l'ai repris plus ou moins quand j'avais fini avec Au-delà de la lumière. Donc, ça devait être en 2019 que j'ai commencé à l'écrire sérieusement. Et il est sorti... à la base, il devait sortir fin 2020. Mais bon, avec la situation qu'on connaît, ça ne s'est pas fait. Et donc, après, il s'est un petit peu délayé. Tant mieux, parce qu'en fait, on était un peu à la bourre pour les corrections. Donc
Et puis, prix utopial.
Non, mais voilà, tant mieux.
2022.
Tout à fait. Mais... alors combien de temps ça c'est difficile à dire parce que c'est toujours.
C'est une idée. Donc c'est les idées se sont venues.
Mais ça mûrit pendant plusieurs années, ouais. Ouais. Alors après exactement quand ce personnage de l'homme sans nom, on va l'appeler comme ça, parce qu'on donne pas son nom dans l'histoire au départ. Et alors il y a des liens. Tu l'as mentionné. Il y a des liens avec cette trame de fond que je tisse derrière les différents romans, mais c'est assez vague. Il y a un personnage dans Au-delà de la lumière, pour ceux qui l'auraient lu, qui s'appelle Morgane, qui a aussi une sorte de poste un peu important comme ça, mais sans avoir l'air d'être important, mais qui se révèle au fur et à mesure de l'histoire comme étant de plus en plus important dans, on va dire, ceux qui tirent les ficelles un petit peu de ce monde-là. Et le personnage de l'homme sans nom, ici, a un lien direct avec cette sorte d'organisation de l'ombre, un peu, on pourrait dire ça, qui tire certaines ficelles, qui essaye d'exploiter certains éléments de cet univers-là, une forme d'énergie notamment, dont on touche un petit peu là-dedans, et puis qui était aussi touchée dans Au-delà de la lumière, une forme d'énergie qui pourrait être exploitée venant de l'être humain lui-même. Ça, je ne peux pas aller trop dans les détails pour des raisons de spoiler pour celui-là et du premier aussi, mais voilà, encore, comme je disais, ils se lisent parfaitement indépendamment, mais il y a une sorte de petite fil conducteur qui se trame et tu me parlais de potentiellement un prochain roman. Il y a effectivement toujours des choses qui sont en lien avec ça. Après, ce personnage en particulier, est-ce qu'il reviendra ? Ça,
tu sais pas.
Honnêtement, je sais pas et je pense pas forcément. Mm-hmm. Mais après, c'est toujours compliqué pour moi de répondre à ces questions parce que je. Alors, sans spoiler, on peut dire quand même que c'est une fin qui. Pour certains aspects, un peu en suspens, comme ça. Il y a une petite sorte de. Un des aspects de l'histoire est un peu laissé ouvert, en tout cas, ce qui a pas mal créé de questions et d'interrogations chez des lecteurs que j'avais pu rencontrer dans d'autres festivals ou ailleurs, et qui veulent savoir, qui me demandent, mais alors qu'est-ce qui arrive à ce personnage ? Et je sais pas. Et je dis pas ça pour me dérober de la question, mais je sais vraiment pas. J'ai quelques idées. Mais je me pose pas la question dans le sens où ça n'avait pas besoin de faire partie du livre, donc je me fatigue pas pour. Non, mais c'est, le pareil pour l'homme sans nom. Au-delà de sa présence dans ce livre-là, je sais pas exactement les détails de qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme vie, mais l'aspect du nom que tu as mentionné, cet aspect mystérieux, pour moi, ça rejoint notre conversation qu'on avait sur le nom des choses. Parce que Ezra, dès le début du livre, si tu as remarqué, est très...
Ah oui, parce qu'il...
Il a un besoin de savoir le prénom des gens.
Et j'ai bien noté, moi ça m'amusait évidemment, parce que je m'appelle Estelle. Enfin, mon prénom c'est Estelle. Et au tout début, c'est... elle pourrait avoir une tête d'Estelle. Alors je me suis demandé ce que c'était qu'une tête d'Estelle, est-ce que ça colle ?
Je crois que ça fait partie des tentatives d'Ezra de se dérober des questions de son interlocuteur plus qu'autre chose. Non, parce qu'on lui pose des questions sur Céleste et il se dérobe. Enfin, lui, il veut pas répondre à ces questions, donc il dit mais dites-moi votre prénom d'abord, avant de me questionner comme ça avec une lumière braquée sur moi, etc. Ça fait un peu interrogatoire, de cliché. D'ailleurs, il le dit, ça fait un peu cliché de film interrogatoire, etc. Dites-moi quand même au moins votre prénom, quoi, si vous voulez savoir le mien, etc. Et du coup, il part dans une, il détourne complètement le sujet de la conversation en partant sur un délire sur les prénoms des gens, etc. En lui disant qu'il doit avoir un prénom. Agaçant, et puis il commence à l'appeler, je sais plus s'il l'appelle Alex ou quoi, mais
oui, c'est ça.
Il lui dit ouais, un prénom un peu agaçant, genre Alex. Enfin, là non plus, je sais pas pourquoi Alex, mais c'est une manière. S'il y a des Alex parmi nous, je suis navré, mais c'est une manière complètement de se dérober du truc. Mais c'est intéressant parce qu'après, on se rend compte qu'il a un attachement au prénom et au nom des gens. il se sent proche des gens que lorsqu'il connaît leur nom et qu'il peut les. C'est un peu cette chose étrange. On sent qu'il y a un besoin d'attachement de la part d'Ezra. Je pense que ça fait partie de son abandonnisme avec ses parents, etc., qui peut-être fait que voilà, il cherche à connecter aux gens d'une manière ou d'une autre. Et du coup, qu'il y ait ce personnage avec qui il a beaucoup de confrontations pendant le roman et qui ne lui donne jamais son nom, pour lui, c'est difficile. Enfin, ça.
Cela dit, tu joues sur les noms tout au long du roman.
Ouais. Et il invente des prénoms.
Il invente
pour les personnages qu'il ne connaît pas.
Il invente des prénoms pour des gens qu'il ne connaît pas, mais toi, tu inventes des prénoms de prénoms. Enfin, tu dois avoir aussi un rapport aux prénoms assez. Enfin, ça t'est pas venu comme ça. Enfin, je veux dire, j'imagine que tu as attaché aux prénoms des gens avec qui tu échanges.
Pour être honnête, c'est que j'ai beaucoup de peine à nommer mes personnages quand j'écris des romans. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui écrivait aussi, mais enfin, j'imagine. C'est difficile des fois. Enfin, personnellement, pour moi, c'est vraiment compliqué de trouver des prénoms. Enfin, surtout quand on écrit pas mal d'histoires, qu'on a pas mal d'idées. Au bout d'un moment, enfin, il y a un nombre limité de prénoms qu'on peut utiliser et qui sont. Enfin, pour moi, c'est vraiment une épreuve. Et j'aime pas non plus les prénoms un peu fantaisistes, imaginaires. C'est pas mon truc. J'aime bien les prénoms. Même si j'écris des histoires, si j'ai des projets par exemple de fantasy où les prénoms sont assez communs, je ne sais pas pourquoi j'ai un délire avec ça, mais j'aime les prénoms assez communs. J'aime pas les prénoms qui sonnent trop inventés, c'est pas mon truc.
L'avantage, c'est qu'on les retient plus facilement quand on te lit. Hein.
Peut-être, ouais. Mais toujours est-il que du coup, y a des personnages au début, quand ils se baladent dans les ruines et qu'il est confronté à des habitants des ruines, parce que les ruines dans l'ancien monde sont. Toujours peuplé par des sortes de gangs, un peu comme ça. Il y a toute une sorte de politique des gangs dans cette cité qu'on explore pas forcément d'ailleurs dans le roman, qui est laissé à l'abandon.
En suspens, oui.
Ouais. Et du coup, ces gens-là ne sont pas du genre à se présenter, quoi. Ils sont du genre à plutôt t'étriper, te prendre tes possessions. Et, voilà. Et du coup, il leur invente des noms et il va vraiment puiser dans des. Et c'est drôle parce que c'est moi-même quand j'écrivais à la base qui ne savait pas trop quel nom leur donner, donc j'ai puisé comme ça dans des noms de démons et autres éléments de la mythologie hébraïque parce que simplement j'avais pas d'autres idées à ce moment-là. Et c'est resté dans le manuscrit un moment, et au bout d'un moment, il m'a fallu un peu réussir soit à changer, soit à justifier ça. Et ça m'a lancé dans toute une réflexion comme ça de qui était Ezra réellement. Il ne s'appelait pas encore Ezra à ce moment d'ailleurs. Et ça m'a amené dans toute une réflexion de qui il est, qui étaient peut-être ses parents, quelle était son histoire. Et il y a toute cette idée de que peut-être ses parents étaient des gens qui lisaient des vieilles histoires. De tout ce qui tournait autour des démons, de la mythologie, etc. Et lui, il a retenu ces histoires-là. Et du coup, quand il puise lui-même pour nommer les gens qu'il ne connaît pas, il va chercher aussi dans ces prénoms-là, en voyant ce que les gens leur inspirent comme individu. Après, encore une fois, on ne peut pas trop dévoiler les choses vers la fin, mais les prénoms qu'il peut donner aux gens, parfois, il y a une notion de. Vu qu'il est en train d'être interrogé, parce que toute l'idée du roman, même quand c'est des chapitres où il raconte l'histoire comme n'importe quel roman, c'est l'idée qu'il est en train de le raconter à la personne qui l'interroge. Et il y a peut-être il y a une volonté de sa part aussi de cacher l'identité de certaines personnes pour les protéger. Donc il modifie les prénoms, il change les. Alors après, quand on lit, c'est pas du tout quelque chose qui. C'est pas compliqué, c'est ce que je veux dire. C'est pas il y a pas de confusion. Les personnages sont nommés tels quels, mais on découvre petit à petit que, à travers ces prénoms, ils manipulent aussi la perception de ses interlocuteurs.
Je repense à ton monde et à ces jeux de prénoms. Quand tu écris, est-ce que tu fonctionnes avec des post-it ou et c'est essentiellement des éléments qui te permettent de te retrouver dans ton univers et de ne pas te prendre les pieds dans le tapis, ou alors est-ce que tu y vas d'un trait en avançant au fur et à mesure et en faisant apparaître les idées sur tes personnages et leur personnalité se construit au fur et à mesure que ton histoire avance. Comment ça se passe ?
Alors paradoxalement, je fais énormément de préparation. Avant d'écrire vraiment le premier jet, entre guillemets, j'ai un résumé détaillé de chaque chapitre. Voire parfois des sous-chapitres, des scènes, etc. Donc j'ai vraiment un résumé très détaillé de l'intrigue. Parce que j'ai besoin de ça pour écrire vite.
Donc tu connais la fin.
Ouais. Avant d'écrire. Alors parfois elle change. Parfois elle change au fur et à mesure d'écriture. J'expliquerai pourquoi dans un instant. Mais oui, j'ai une idée en tout cas d'une fin en tout cas possible. Ouais. Parce que j'ai besoin d'écrire vite. Dès que je me lance dans un premier jet, il faut qu'en un mois il soit écrit maximum. Sinon je perds l'intérêt. Je m'épuise. Enfin, j'ai vraiment besoin que lorsque je me lance en un mois, il faut que ce soit pondu, quoi. Ouais, voilà. Donc j'ai besoin d'avoir ce schéma très précis pour ne jamais me dire oh là là où est-ce que je vais maintenant. Même si après quand j'écris le premier jet, ça peut être parfois confus ou il y a tout à coup un passage où je sais pas quoi faire. Et du coup je note d'une manière ou d'une autre, il se débrouille et on arrive là. Puis après j'essaie de trouver voilà la place qui manque. Mais paradoxalement justement les personnages je les développe très peu à l'avance. J'ai pas de fiche de personnage ou de trucs comme ça, ça me parle pas. Je les découvre au fur et à mesure de l'écriture du premier jet. Alors ils sont informés évidemment par ce qui se passe dans l'intrigue évidemment, parce que des grandes décisions qu'ils prennent. Donc j'ai une vague idée de qui ils sont et de comment voilà, mais beaucoup de détails de leur passé ou de détails de leur personnalité ou la manière dont ils s'expriment, etc. vont apparaître au fur et à mesure. Ouais. Après pour ce qui est de l'univers. Comme j'ai un univers qui est quand même assez développé sur pas mal de... Comme j'aime bien inscrire un peu toutes mes histoires dans le même univers, j'ai eu une idée générale de comment ça se passe, etc. Mais je suis assez partisan de... c'était, je crois, Brandon Sanderson qui disait c'est une idée d'iceberg vide. C'est-à-dire qu'on est... ce qu'on voit dans le roman, c'est la pointe de l'iceberg en dehors de l'eau. On regarde en bas, puis on se dit « Ah oui, ça a l'air d'être bien. On sent tout l'univers qu'il y a derrière et qu'on ne voit pas forcément dans les romans, mais qui est présent. » Mais en réalité, si on pouvait aller creuser un petit peu, on se rendrait compte que c'est complètement vide. C'est de donner l'illusion qu'il y a énormément de choses et puis que c'est très fourni, etc. Mais comme dans les romans, on ne va pas forcément explorer, on peut se permettre d'avoir une sorte de flou où les choses ne sont pas détaillées, mais on sait que le jour où on devra aller... chercher des éléments là-dedans, il y aura assez d'espace pour pouvoir créer des choses, inventer des choses et compléter des choses. Donc il y a ce qui est en dessous de l'eau, il y a une certaine partie qui est développée, qui est précisée, mais c'est rien n'est ancré. Enfin, je ne suis pas du genre à avoir une bible de tous les détails de ce qui s'est passé pendant 5000 ans dans mon univers, parce que je trouve ça un peu, pour moi c'est un peu trop rigide dans ma manière de travailler. Alors j'ai une vague idée de certaines étapes dans l'histoire, etc. Mais je laisse suffisamment de flou pour pouvoir me permettre, après, dans chaque roman, d'exploiter ça un peu de la manière dont je le veux.
Ouais. Ouais. Enfin, moi, je l'ai bien senti quand tu parles d'autres endroits qui existent, où essentiellement, c'est suffisamment vague pour se dire, bon, ça doit exister, et te laisser à toi, lecteur, une représentation de la chose. En même temps, moi, je dois t'avouer qu'en termes de communication, je me disais, mais comment ils communiquent les uns avec les autres? Comment l'information circule? Et ça, pour le coup... C'est un élément dont je suis curieuse. Mm-hmm. Ça n'était pas du tout ton... Enfin, on n'en a pas du tout besoin pour suivre ton histoire. Mais scrogneugneux quand même.
Non, je comprends. Ouais. Si tu attends une réponse, j'en ai pas. Le cours de philosophie...
Ah, c'est ton univers.
Non, justement. Non, je pense... Il y a une chaîne de télévision dont on a une transcription à un moment. Donc, je pense qu'un des aspects qui donne cette impression, c'est que l'endroit où se passe particulièrement ce roman-là est quand même pas mal désolé. Enfin,
très isolé.
C'est pas forcément le coin le plus... Mais pour ceux qui ont lu Au-delà de la lumière, par exemple, ça se passe essentiellement dans le même endroit où l'essentiel d'Au-delà de la lumière se passe. On reconnaît le lieu avec la falaise. Dans Au-delà de la lumière, c'est une cité... gigantesque, complètement high-tech, tout ce qu'on veut, avec des taudis en bas pour les gens qui n'ont pas réussi à entrer, avoir accès à cette ville, justement. Et là, dans le troisième exode, les taudis sont devenus une sorte de petite ville qui survit comme ça. Et en haut, là où il y avait toute la technologie, tout ça, forcément, ça a été ratissé pour alimenter le grand exode, parce qu'il fallait des ressources, quoi. Donc ils ont été les chercher là où il y en avait. Donc il y a un petit peu ce parallèle qui est intéressant, mais déjà dans Au-delà de la lumière, on voit que c'est un coin qui est très isolé, derrière un désert, donc c'est un peu une sorte d'enclave, un peu de Dubaï futuriste comme ça, qui est déjà très enclavé, quoi. Alors ici, forcément, eux, ils sont un peu coupés du monde, et ils vivent un peu en autarcie comme ça. Autarcie, c'est le mot juste. Tout à coup, j'ai eu un doute.
Non, tout va bien.
Et on entend parler des cités du nord de l'Europe. Il y a Berlin qui est toujours mentionné et des choses comme ça. Et où là, apparemment, ça a l'air d'être un peu le réseau a l'air un petit peu plus étendu. Donc moi, dans ma tête, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a des coins qui sont un peu plus avancés technologiquement que ceux qu'on a l'occasion de voir là, où les réseaux de télécommunications sont peut-être l'équivalent de ce qu'on avait au milieu du siècle passé, quelque chose comme ça. Ouais. Dans ma tête, c'est un peu comme ça que c'est. Après, j'ai jamais eu l'occasion de développer encore dans aucune de mes histoires, donc j'ai pas eu besoin d'aller plus dans les détails que ça. Je risque de me tendre des pièges pour le futur si je continue de travailler comme ça, mais...
Mais les lecteurs, bon, en général sont conciliants sur ce genre de choses. Alors justement, en parlant des lecteurs, est-ce qu'il y a... Il nous reste une dizaine de minutes. Est-ce que certains ont lu cet ouvrage et ont envie de poser des questions à Daniel?
Et pas...
Ah oui, on a une question. Ici. Bonjour.
Bonjour.
Le personnage de la tablette.
Parlez près du micro.
Le personnage de la tablette, c'est bon là?
On vous entend un peu, mais on vous entend, nous. Le personnage de la tablette, allez-y.
Eh ben, j'aimerais bien en savoir plus et savoir si vous avez une affection particulière pour ce personnage.
Ah, quelle affection as-tu pour Terra? Alors, fille ou garçon d'ailleurs? Ou rien du tout?
Je vais pas dire, parce que... non. Non, mais parce que c'est une question intéressante. D'ailleurs, c'est un point du roman, oui, où il y a une discussion à ce sujet-là, quoi. Et donc, du coup, je ne vais pas forcément trop en parler. Mais pour moi, c'était. Il y a une question intéressante qui se pose sur comment chaque personnage s'adresse à cette tablette qui, forcément, par sa nature, n'a pas de genre établi. Et du coup, il y a une réflexion qui se pose de la manière. Et c'est intéressant parce que ça en dit beaucoup sur comment les personnages considère cette tablette, de la manière dont il... y a toute une réflexion sur ça, donc je ne vais pas forcément le spoiler, mais c'est une des scènes que j'ai beaucoup aimé écrire, en fait, la scène où Céleste aborde cette question avec Terra, justement, de savoir si elle se considère féminine ou masculine ou autre. Et, ouais, donc y a une... mais pour revenir à la question précise... C'est pas mon personnage, le personnage préféré que j'ai. Mon personnage préféré à écrire du roman, c'était Céleste, parce que je pense que c'est le personnage le plus intéressant et mystérieux. Mais Terra, je dirais que c'est le personnage qui m'a demandé le plus d'efforts à écrire de tous ceux que j'ai pu créer jusqu'à présent. Parce qu'il y a justement cette idée que. C'est un personnage qui est tellement non physique dans sa manière d'interagir avec le monde que. Voilà comment on rend un personnage intéressant qui ne peut dans un récit qui bouge quand même beaucoup. Ça, c'est pas un récit d'action, mais il y a quand même pas mal de mouvements. Il y a beaucoup de.
Et c'est un personnage qui ne voit pas.
Ça c'est un autre aspect intéressant aussi, c'est que effectivement c'est un personnage qui ne voit pas dans le récit parce que sa caméra est cassée au début quand il la découvre. Et du coup on doit lui décrire le monde, on doit lui expliquer. Et du coup il y a une perception qui est complètement altérée. Et pour moi, c'était intéressant d'explorer le monde à travers un personnage qui ne peut pas agir directement sur son environnement, qui ne peut pas le voir, qui ne peut pas le comprendre de la même manière, mais qui a une capacité intellectuelle qui est supérieure. D'ailleurs, c'est difficile d'écrire quelqu'un qui est en théorie plus intelligent que soi, parce que c'est compliqué. Enfin, comment imaginer comment ce personnage voit le monde et ouais. Pour moi, c'était un personnage qui était vraiment comme aucun autre que j'avais écrit. Donc j'ai une affection pour Terra, qui est un personnage qui va beaucoup me manquer dans mes prochains romans, parce que c'était... Mais ça se mariait tellement bien avec cette idée de faire des chapitres uniquement en dialogue. Pour moi, c'était passionnant d'avoir ce personnage qui... Puis de pouvoir jouer avec la typographie aussi. Ça, c'était quelque chose que j'avais fait moi-même dans le manuscrit. Les interventions de Terra sont... typographié différemment des autres personnages, ce qui permet dans les chapitres uniquement en dialogue de pas d'avoir aucune incise, parce que quand je dis des passages uniquement en dialogue, il n'y a même pas d'attribution de dialogue, on ne dit pas
dit-il,
etc. Donc il n'y a vraiment aucune indication et j'espère que c'est lisible pour le lecteur parce que...
Écoute, je ne sais pas ce que tu dis, lecteur. Moi, de mon côté, ça ne me pose aucun problème. Mais c'est vrai que
Mais avec justement la typographie de Terra, ça permettait un petit peu d'aider aussi à ça. Mais il y a rarement plus d'un personnage qui interagit en plus avec dans ces dialogues. Donc c'est voilà. Mais oui, c'est voilà, un personnage curieux. Je suis navré, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais...
Non, ouais, mais... Attendez.
Je vous entends.
On va reprendre, mais est-ce qu'il y a d'autres questions pour être sûr de ne pas de laisser la parole à tout le monde? Allez-y, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème.
Alors, à titre personnel, moi, j'ai trouvé que ce personnage, Terra, avait un rôle de contrepoint très efficace parce qu'il allège les situations lourdes, il apporte un autre regard sur ce qui est en train de se passer et il est drôle. Ça m'a fait penser à... comment c'était ça? La coccinelle dans Gottlieb. Bon, évidemment, c'est vieux. Donc, je ne sais pas si tout le monde a la ref, mais qui apporte un décalage sur les scènes que l'on voit dans la BD.
Et je pense que le décalage va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a des situations où, comme vous l'avez dit, où c'est des choses graves qui se passent, et puis il y a une sorte de naïveté ou de légèreté qui est amenée comme ça de la part du personnage. Enfin, il y a une scène dont je ne vais pas parler dans les détails, mais vers le début du roman, avec Céleste qui vit une expérience difficile, et le personnage de Terra se positionne complètement en soutien comme ça, dans cette, mais avec une naïveté qui est très touchante, enfin, parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Mais
c'est une alliée.
C'est une alliée, et elle est là en soutien, alors qu'elle ne comprend pas. Parce qu'elle ne peut pas vivre ça, elle ne peut pas comprendre ce qui se passe ou ce qui est arrivé exactement à Céleste, vu qu'elle ne voit rien, etc. Mais elle a compris qu'il y avait une urgence et qu'il y avait un besoin de simplement d'être là pour soutenir. Et donc, du coup, voilà, il y a cet aspect-là. Et dans d'autres moments où les personnages sont peut-être perdent un peu de vue, je ne vais pas parler de leur mission, mais ce qu'ils doivent faire, enfin leur quête, comme ça, elle le recentre aussi avec parfois... des choses que seule elle peut comprendre, puisqu'elle a cet aspect de ces intelligences artificielles qui savent ce qu'il faut faire pour pouvoir potentiellement se libérer, quitter la Terre. C'est difficile d'en parler trop sans aller dans les détails de la deuxième moitié du roman, je suis assez... j'aime beaucoup votre analyse, merci.
Est-ce qu'on peut dire qu'à un moment, elle retrouve la vue?
On peut.
Et ça ne spoile rien à l'histoire, mais elle va utiliser sa connaissance d'Ezra via Céleste pour renvoyer à Ezra une toute petite remarque en passant qui est vraiment particulièrement drôle et qui laisse Ezra un peu sans voix. Est-ce qu'on peut la dire? Est-ce que tu m'autorises à la...
Oui, non, pas de souci.
Donc essentiellement, elle le voit et elle dit « Je te croyais plus beau que ça ». Et ça, moi, j'ai trouvé ça très drôle parce qu'en fait, ça en dit beaucoup sur... Enfin, c'est une toute petite phrase, mais qui en dit beaucoup sur ce que Céleste a dit à Terra, sur la façon dont Céleste voit Ezra alors qu'Ezra ne s'en rend pas forcément compte. Et donc, on a toute une relation entre ces deux personnages qui reste effectivement ambiguë parce qu'on ne sait pas, ce que pense Céleste, mais par le biais de Terra, on peut se dire « Ah !» Et comme tu disais, le livre reste ouvert à la fin. Chacun est libre essentiellement d'imaginer sa fin. Et parmi les options possibles, je vous laisse découvrir le livre pour en savoir plus. Il nous reste 2-3 minutes, c'est le temps de laisser le changement de table ronde. Je tiens à te remercier vraiment beaucoup pour cet échange très riche et j'espère que vous en avez bien profité. N'hésitez pas à découvrir cet auteur maintenant à la librairie puisqu'il va faire des dédicaces. Son livre, c'est le 3e Exode. Lisez-le vraiment pour les ados mais pour les adultes aussi. Il est vraiment très très chouette. Merci à toi Daniel.
Merci Estelle. Merci à tous. Merci. Highly complex machinery is not always the biggest challenge. We've reverse engineered some devices from new material. Highly complex machinery has been released.
continues to intrigue.